Avant de commencer, cet épisode est issu d'une longue série dédiée à comment gérer un rayon en grande distribution. Aux côtés de Philippe Rovira, consultant et formateur spécialisé, nous revenons sur les grandes questions concernant la vie d'un employé et d'un manager en magasin. On y parle de gestion, de merchandising ou encore de management. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et à vous inscrire à la newsletter du podcast pour ne manquer aucun épisode. Premier épisode de cette mini-série consacrée à comment gérer son rayon, qu'on a déjà justement enregistré avec toi, Philippe, il y a quelques temps. Et je tenais vraiment à te réinviter pour faire une deuxième série, parce que la première série a beaucoup plu. Dans cette série, on va parler beaucoup de gestion, on va parler de RSE, on va parler aussi d'actualité de la grande distribution. Je suis content de te donner la parole, en tout cas. Rapide présentation peut-être, en 30 secondes, Philippe, dis-nous juste qui tu es, ce que tu formes justement beaucoup de responsables de magasins aujourd'hui. Mais tu as aussi un gros passé dans la grande distribution.
Merci en tout cas Jonathan pour cette invitation et c'est également avec plaisir que je te retrouve pour cette deuxième série. Alors j'ai travaillé pendant 20 ans dans la grande distribution, à peu près à tous les niveaux hiérarchiques, dans tous les rayons du point de vente. Et depuis maintenant 10 ans, j'ai créé un organisme de formation spécialisé grande distribution, forcément mon métier de cœur. Et j'accompagne donc la grande distribution, toute enseigne confondue sur le territoire national, des managers aux directeurs, des adhérents. Je fais donc de la formation transversale, de la formation métier, du coaching. Bref, je développe les compétences et les performances des différents points de vente que j'accompagne. Voilà, très rapidement, très synthétiquement, mon parcours et ce que je fais aujourd'hui.
Très clair. On rentre dans le vif du sujet sur notre sujet numéro 1 de cette mini-série sur comment lutter contre le gaspillage et mieux gérer ses invendus et ses déchets. Il s'est passé beaucoup de choses ces 10 dernières années en termes législatifs, en termes d'initiatives du côté des magasins. La culture aussi s'est inversée. On n'est plus dans la consommation de masse. Maintenant, on est beaucoup plus dans une consommation responsable en magasin. Concrètement, première question déjà, qu'est-ce qui a changé au niveau de la loi en magasin?
Alors, on a eu deux lois qui sont passées. La première qu'on connaisse tous et toutes, la loi Garot en 2016, qui nous a contraint, nous distributeurs, de ne plus jeter de la marchandise encore consommable et d'essayer donc de la valoriser, d'essayer de la donner. Donc, cette première loi déjà nous a fait changer la donne, a changé la donne sur la gestion des invendus. Et la deuxième, c'est la loi GEC de 2020 qui étend en fait les dispositions, cette disposition à toute surface, alors qu'en 2016, c'était les points de vente supérieurs de 400 mètres carrés. Et la loi GEC également intègre dans la réflexion et dans le cadre de la loi les industriels et le secteur non alimentaire. Donc, on voit bien que le gouvernement, les différents gouvernements et les différentes lois veulent encadrer fortement cette gestion des invendus, la gestion des déchets également, dont nous aurons l'occasion d'en reparler. Et d'ailleurs, des labels sont sortis. Alors, il y a des labels qui sont propres à certaines enseignes. Je sais qu'Inter a sorti un label qui lui est propre. Mais oui, il y a un label au national, une reconnaissance nationale anti-gaspillage qui est décernée aux points de vente qui vont être certifiés dans le cadre de ce label, qui vont être donc bien évidemment audités, contrôlés. Et un certain nombre d'étoiles leur sont attribuées en fonction du degré de maîtrise de la gestion de ces invendus et de ces déchets.
Ouais, ce label anti-gaspillage, on en parle justement d'ailleurs sur, je pense, en grande distribution. Il y a à peu près 30 magasins, je pense, en 2023 qui ont eu ce label aujourd'hui. Beaucoup de magasins indépendants d'ailleurs. Alors, au-delà des textes, parce que les textes, c'est une chose, concrètement, comment ça se matérialise en magasin? On connaît tous les paniers anti-gaspillage, on connaît tous les sticks sur les produits à prix réduit. Est-ce que tu peux nous donner justement les solutions concrètes actuellement mises en place en magasin?
Alors oui, je vais te proposer toute une série d'actions que je vois dans les magasins, que j'ai piloté moi aussi par le passé lorsque j'étais dans le circuit. Alors déjà un certain nombre d'actions concernant les dates courtes pour éviter, bien sûr, de jeter, éviter de perdre ainsi de la valeur et de la renta. La première, c'est classique, hein, je ne vais pas apprendre grand-chose, ce sont des actions promotionnelles que nous allons mettre en place. Hein, on va baisser le prix lorsqu'on se rend compte qu'on a un stock qu'on n'arrivera pas à vendre. Il faut avoir cette vision suffisamment anticipative pour casser le prix suffisamment tôt et ne pas jeter la marchandise. Nous avons des zones dédiées. Hein, aujourd'hui, de plus en plus de magasins consacrent des zones dédiées à ces espaces anti-gaspi qui sont balisés, dans lesquels on entrepose la marchandise. Alors, j'ai un petit bémol par rapport à ces espaces, Jonathan. Lorsque j'accompagne les magasins, ce qui me gêne, c'est que ces espaces sont très bien garnis le matin à 8h30 à l'ouverture. Et au bout d'une heure, en fait, les premiers clients s'y sont précipités, ont vidé ces espaces-là. Et nous avons parfois des têtes de gondole, des bacs, parfois même des espaces plus grands qui demeurent vides entre 10h du mat et la fermeture du magasin. Je trouve ça dommage, car aujourd'hui, il faut aller chercher du chiffre d'affaires et de la renta au mètre carré. Et c'est dommage que ces espaces soient maintenus vides. Je pense qu'il y a une solution qui peut être très intéressante, c'est du mobile, c'est-à-dire un bac mobile ou deux en fonction de notre capacité. On les roule dans une zone dédiée, balisée, et une fois qu'on a vendu, une fois que le bac est vide, on le retire et on exploite cette zone avec autre chose ou tout simplement on n'y met rien pour pas qu'il y ait cette vision dégradée de cet espace avec de la gondole vide, des tablettes vides. Voilà pour les actions promo. Autre chose également, c'est la fin des catalogues. Jonathan, ce que je vois souvent, lorsqu'on a mal vendu un produit, mais finalement, le prix remonte et on laisse le prix remonter, peut-être dans une quête de marge. Hein, on parle de surmarque dans ces cas-là. Attention, faut être vigilant lorsqu'on est en fin de catalogue et qu'on se rend compte qu'on a un stock important qu'on n'a pas réussi à vendre. Maintenant, le prix promo sur une durée suffisante pour espérer écouler la marchandise et ne pas la jeter. Autre chose également, alors tu l'as évoqué, ce sont les paniers anti-gaspi. Alors aujourd'hui, on a un acteur qui est archi connu, hein, Too Good To Go, qui fonctionne très très bien. Peut-être cette donnée-là, tu l'as pas en tête et je préfère le rappeler. En moyenne, pour un panier de 4 euros, 3 euros reviennent au point de vente et 1 euro revient au prestataire, à Too Good To Go.
Donc c'est intéressant. Il y a aussi Phoenix dans le même style.
Exactement. C'est intéressant d'avoir cette vision-là. Alors, ça fonctionne très, très bien. Hein. On propose des paniers auxquels le client ne connaît pas la composition. Il vient le récupérer et ça nous permet d'écouler de la marchandise et éviter, encore une fois, de jeter de donner une seconde vie à ces produits qui sont défraîchis, des produits qui sont en fin de vie, mais qui sont bien évidemment consommables. Au-delà de ces paniers, alors n'oublions pas que nous pouvons, nous, en interne, dans les points de vente, faire des paniers. Hein, en fruits et légumes, en boule pâte, on a l'habitude, en boulangerie, où on met des produits qui sont pas très en forme. On fait un prix au kilo, 5 fois moins cher que le prix permanent, et on écoule cette marchandise pour être certain de ne pas la jeter et d'en faire profiter. Autre aspect également qui, pour moi, est important et qui n'est pas suffisamment utilisé dans les points de vente, ce sont les dons. Au-delà de l'aspect social et sociétal, qui est bien évidemment très positif, le don nous permet d'éviter de remplir des bennes. Et les bennes, le coût des enlèvements ne cesse de progresser. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble. Et en plus de cela, nous avons une défiscalisation qui est intéressante. Alors certes, il y a un plafond, hein, maximum annuel de 0,5% du chiffre d'affaires. On ne peut pas aller au-delà. Mais quand on voit ces trois vertus, éviter de remplir la benne, faire un don avec les vertus sociales et sociétales et le fait d'avoir un dégrèvement fiscal, ça vaut le coup de se poser la question sur les dons aux associations. Nous pouvons également, autre action, reconditionner les produits frais, abîmés, je pense notamment aux fruits et légumes avec la fraîche découpe. Il peut y avoir d'autres secteurs où on redonne donc une seconde vie au produit en le proposant sous une forme différente et ainsi écouler ce produit-là. Enfin, autre chose également, c'est la rotation des produits qui parfois demeure insuffisante faute de personnel. Et on connaît le contexte aujourd'hui dans l'AGD et pas que l'AGD. On manque de monde, on manque de bras. Comment voulez-vous qu'on fasse une rotation parfaite des produits lorsqu'on a un intérimaire qui vient d'arriver le matin et qui ne connaît absolument pas le rayon produit frais en l'occurrence. Donc, on a des outils aujourd'hui et des spécialistes, des entreprises qui nous accompagnent, de TICAD. Alors, tu en as cité certaines comme Sparkway, je vais compléter avec Phoenix, avec Omerso ou encore avec Odamele qui, grâce à Lim aussi, un autre acteur, ces applications nous accompagnent, attirent notre attention tous les matins sur des produits qui arrivent à date, ce qui nous permet d'éviter de faire toutes les dates d'un rayon. Alors certes, il y a un gros travail en amont au départ pour rentrer toutes les dates dans la bécane, mais ensuite, il peut y avoir un gain de temps intéressant. Alors au travers des échanges que je peux avoir avec les managers dans les points de vente que j'accompagne, j'ai des avis qui sont très variables. Certains sont très positifs, d'autres sont beaucoup plus dans la nuance concernant le gain de temps effectif. Force est de constater que ce sont des outils additionnels et quand je vois demain, Jonathan, que le GenCode va disparaître qu'il sera remplacé par un outil
qui améliorer.
Et un QR code, voilà, et cet outil va être extraordinaire parce que le QR code va amener avec lui aussi les dates des produits, les DLC les DDM des produits. Donc, automatiquement, tous les matins, la bécane va nous créer une alerte sans qu'il y ait une nécessité de rentrer toutes les dates dans l'outil en amont. Bref, ça va être extraordinaire. Alors, il faut attendre encore quelques années, hein, c'est pas pour tout de suite, mais le QR code va arriver très, très rapidement.
Ça peut révolutionner justement la perte. Ça peut éviter le gaspillage alimentaire. Effectivement, ça ne résoudra pas tout parce que clairement faire zéro déchet c'est impossible, faut le dire aussi, mais effectivement on peut encore diviser par deux, par trois. Il y a des magasins qui bossent très bien aujourd'hui, mais il y a encore quelques efforts à faire, mais on n'est pas loin quand même d'avoir amélioré beaucoup de choses par rapport à il y a 10 ans.
Alors tu sais Jonathan, quand tu dis zéro déchet c'est pas possible, on s'y rapproche. Il y a certains magasins, je pense à certains Leclerc Breton, il me semble les Herbiers sont très bien positionnés sur le sujet où ils sont, et ces points de vente avancés sont très proches du zéro déchet. Hein. Je pense qu'on, alors peut-être pas, tout le monde n'y arrivera peut-être pas, et à zéro déchet, ça risque d'être un objectif élevé, mais les plus performants peuvent s'y rapprocher, voire y arriver, Jonathan. Quand on cumule toutes les actions que je suis en train de t'énumérer, et il y en a d'autres, hein, on va les voir. Oui, moi j'y crois. Et on a Lidl qui est en train de se positionner également sur le sujet. Hein. Je lis de plus en plus d'articles concernant cette enseigne qui est de plus en plus vertueuse sur l'aspect environnemental, mais également sur la gestion des déchets. Donc, tout le monde se positionne et moi, ce zéro déchet peut être un objectif fixé sans aucun problème. Et d'ailleurs, on va continuer parce que tu vas voir, au-delà de ces actions, il y en a d'autres qui sont encore intéressantes. Moi, je pense aux négociations commerciales également. Et ça peut avoir un rôle à ce niveau, Jonathan. Tu vois, des fois, on est confronté à des francos beaucoup trop élevés, des francos qui nous contraignent de commander des quantités importantes. Et parfois, malheureusement, ces francos sont à l'origine de la casse et donc des invendus et des déchets. Négocions avec nos fournisseurs des francos qui sont respectables. Il faut savoir que le franco est négociable. Alors bien évidemment, quand on est dans une enseigne centralisée, tout se fait en amont, tout se fait au niveau de la centrale. Et quand on travaille dans des enseignes indépendantes et qu'on commande en direct, qu'on achète en direct, c'est à nous de négocier avec nos fournisseurs des francos qui sont plus raisonnables. Et toujours dans la négociation, négocions également avec nos fournisseurs un accompagnement sur la casse. Quand on achète de la nouveauté, on négocie forcément de la gratuité pour compenser une probable casse, puisqu'on ignore de manière très pertinente et efficace les sorties caisses d'une nouveauté. Donc, on peut négocier ça. Lorsqu'on fait une mise en avant de produit, une opération, on négocie également dans le cadre d'une commande, d'un achat beaucoup plus important, d'une tête de gondole allouée au fournisseur, on négocie de la gratuité pour compenser la casse. Donc, ça peut être également un avantage intéressant. Alors là, on est plutôt pour limiter la perte de valeur plutôt que de limiter les déchets, puisque si casse il y a, ça reste des déchets. Mais ne pas oublier la négociation qui peut être importante. Et je termine par l'animation dégustation. C'est un coût, hein. L'animation dégustation, c'est un coût pour le fournisseur. C'est un sacré coup de main pour nous. Lorsqu'on sait qu'on a des dates courtes, lorsqu'on sait qu'on a du mal à épouler une fin de promo ou tout simplement un produit, on peut essayer de négocier avec un fournisseur une animation dégustation qui accélérera forcément les sorties caisses du produit pendant le week-end ou la journée d'animation, accompagnée peut-être avec du BRI, et ça nous permettra d'éviter de mettre la marchandise à la casse, à la benne. Tu vois, il y a un certain nombre d'actions qui sont intéressantes, sollicitant aussi nos collaborateurs. Quand je vois au rayon coupe, par exemple, charcuterie, fromage coupe, on sait qu'on a un produit qui arrive à date ou un produit dont les sorties sont compliquées. Insistons auprès de notre équipe de mettre en valeur ce produit sur les journées ou la demi-journée en question. Grâce à des techniques de vente, grâce à un argumentaire peaufiné, on va pousser volontairement ce produit pour espérer le vendre à temps et éviter de le bénir. Et enfin, un autre aspect qui est pour moi gênant, c'est la politique de retrait. Alors là, tu vois, Jonathan, on a deux concepts deux approches qui sont totalement différentes. Soit on pense client, et dans ces cas-là, on fait en sorte de retirer les produits longtemps à l'avance. Par exemple, un pack de yaourt de 16 pots. Pour éviter qu'un client se retrouve à consommer 16 pots en 2 jours, on va faire en sorte de les retirer à 5 jours. C'est généralement ce qui s'observe à l'ultra près. Mais si on retire à 5 jours, cela veut dire qu'on alimente forcément une casse potentielle et des invendus et du déchet plus important. Donc, c'est un grand dilemme. Est-ce qu'on a un regard client et à ce moment-là, on a une politique de retrait qui est favorable au client, ou est-ce qu'on retire qu'au dernier moment pour optimiser les chances de vendre le produit, et on le retire à 2 jours, on le retire le jour même, mais là, c'est pas forcément un regard client puisqu'on va peut-être contraindre le client à consommer très rapidement le produit et cela ne va peut-être pas lui aller très bien. Donc, tu vois, il y a un certain nombre d'actions. Tiens, j'en oublie une et je vais quand même terminer sur celle-ci parce que je la trouve également pertinente. Quand on est dans le rayon fruits et légumes, pour ne citer que lui, on achète d'abord avec les yeux. Et combien de fois on n'achète pas un produit parce qu'on trouve que sa couleur n'est pas conventionnelle, que sa forme du produit, du fruit ou du légume n'est pas conventionnelle. Et on l'écarte, on le manipule en plus, donc on le détériore, on l'écarte et on va chercher les produits d'en dessous ou à côté. Alors que pédagogiquement, on pourrait accompagner le client, soit à l'aide de petits panonceaux, soit tout simplement avec un argumentaire des vendeurs autour des clients pour annoncer que ce produit-là, c'est pas du tout une altération, c'est au contraire, le produit a mûri, le produit est de meilleure qualité, le produit sera plus savoureux, tu vois, un accompagnement pédagogique, plus d'informations au client pour éviter que ce produit ne soit délaissé et ne soit pas acheté. Voilà, très rapidement, alors il y en a d'autres, hein, mais quelques actions qui peuvent être mises en place pour limiter les déchets dans notre point de vente.
Merci Philippe, on passe à l'épisode sur la négociation avec les fournisseurs. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt !